Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Si la tradition veut que l'actualité et la météo soient plutôt commentées au comptoir autour d'un café noir, nous avons décidé, à Madame Figaro, de refaire le monde dans la chaleur d'un studio et autour d'un micro. Les fashion faux pas d'Elisabeth II, les quadragénaires, la galère des parents qui télétravaillent sont autant de gens et de thématiques qui font l'actualité et que nous avons eu la chance d'aborder avec notre invité du jour. Je suis Marion Géliot, journaliste culture célébrité, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos convives. Un exercice intime, sincère et parfois même engagé. Anne Berest, vous nous recevez dans votre appartement parisien. Écrivaine reconnue, vous avez écrit Sagan en 1954 et vous êtes co-auteur du best-seller sur la Parisienne avec Caroline de Maigret. Vous avez également créé la maison d'édition Porte-Plume pour vous attaquer ensuite à l'adaptation théâtrale. Mais le public vous retrouve aujourd'hui derrière le scénario de la série Mytho, dans laquelle Marina Hand s'invente un cancer pour attirer l'attention de son mari et de ses enfants. Vous-même à la tête d'une famille nombreuse, vous êtes une maman et belle-mère aimante, et à tout juste 40 ans, vous semblez plus que jamais comblée. Bonjour Anne Berest.
Bonjour.
Dans son film Notre-Dame, Valérie Donzelli dit qu'elle voulait parler des femmes de sa génération. Je voulais savoir quel était votre regard sur les femmes quadragénaires.
Alors, d'abord, je peux vous donner mon regard sur ce film, car je l'ai vu, et que Valérie est une femme que je connais depuis très longtemps. J'ai eu la chance de jouer dans La guerre est déclarée, un petit rôle. Et Valérie, elle fait partie, peut-être, si on veut le rattacher à l'idée des femmes de notre génération, on a essayé d'inventer, de s'inventer, un peu hors d'un certain nombre d'idées préconçues de ce que devait être la femme artiste. Elle a construit son sillon, son personnage, dans quelque chose qui me ravit, c'est-à-dire la fantaisie, une forme de profondeur qui n'est jamais grave, parce que c'est pas parce qu'elle a un cinéma parfois fantasque que ça ne veut pas dire qu'il est aussi parfois abordant des questions importantes. Et elle creuse ça, et je trouve ça très beau avec les années, de voir comment elle construit une œuvre, film après film, dans quelque chose qui va finir par être elle, par être son elle d'artiste. Et voilà, c'est un film que je vous recommande parce qu'il est irrésistible.
Et quel regard portez-vous sur les femmes de 40 ans aujourd'hui?
C'est très difficile d'avoir un regard sur une chose qui est soi. Je peux avoir un regard sur les filles de 20 ans, je peux avoir un regard sur une génération au-dessus, mais la mienne, il faut du temps pour pouvoir porter un regard. Donc, on va dire que je vais pas vous répondre en posant un regard, mais peut-être pour vous donner une sensation qui est une sensation sans recul. C'est étrange de basculer dans la quarantaine, parce que parfois on se regarde et on se dit « Ah bon, bah ça y est, c'est arrivé ». Alors moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que comme je redoutais l'arrivée des 40 ans, je me suis dit « Bah, comme je veux pas me laisser imposer une date par le calendrier ou par une fatalité, ben il y a un jour un peu avant mes 40 ans, 2-3 mois avant mes 40 ans, j'ai décidé que c'était le jour de mes 40 ans. Et je me suis dit donc c'est mon anniversaire, j'en ai parlé à personne, hein, c'était pour moi-même, mais je me suis dit comme ça en fait ce jour il est passé. et je le décide. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'à partir de ce jour-là, alors que je n'avais pas encore 40 ans, je pouvais me dire dans ma tête, ça y est, j'ai 40 ans. Et comme m'entraîner, comme quand on est une petite et qu'on se déguise pour essayer de, déjà de mettre des vêtements sur soi de quelque chose qu'on aspire à être ou qu'on se prépare à être. Voilà, je me suis préparée en amont à mes 40 ans.
En bikini sur Instagram, Terry Hatcher évoque sa confiance en elle à 55 ans. Quand vous sentez-vous belle, Anne Berest?
Quand mes filles me le disent. J'adore quand elles me disent « Ah, oh, mais t'es belle, maman !» quand je sors le soir et que je mets, je sais pas, une chose pour m'apprêter. Ça m'attendrit beaucoup. Bah, avec voilà, l'homme que j'aime. Voilà, je trouve que c'est, au fond, c'est une question du regard des autres. Oui, c'est un peu banal ce que je dis, mais voilà.
Commentaire blessant et intimidation, Britney Spears déverse sa colère contre les haters. Quel lien entretenez-vous avec les réseaux sociaux?
Alors, moi, je n'ai jamais eu Facebook. J'étais pas dans cette chose-là. Et après, quand Instagram est arrivé, je me suis inscrite sur Instagram. Et je, voilà, comme tout le monde, je me suis prise à ce jeu-là. Tout d'un coup, je trouvais à ça beaucoup d'avantages, une façon de pouvoir parler de soi, de ce qu'on fait, suivre les amis, etc. Donc, j'étais très enthousiaste par ça. Et puis, comme beaucoup d'autres aussi, il y a un moment où il y a une forme de lassitude de cet outil-là. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu mon téléphone il y a un an. J'ai dû me le racheter. Quand je me le suis racheté, je ne savais pas mettre mon appli Instagram dans mon téléphone. Donc tout d'un coup, j'étais contrainte de ne plus avoir ça et je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me manquait pas du tout et que le temps que je passais sur les réseaux, c'était un temps pour faire d'autres choses. Et puis les jours passant, les semaines passant, je n'ai pas remis l'application. Donc ça doit faire voilà, presque un an et demi que je ne suis plus sur Instagram. Et je vois aussi ce qui me manque, parce que parfois, je vois mes amis vivre des choses, ils sont persuadés que je suis au courant parce qu'ils les ont mis sur Instagram, et moi, je ne le sais pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un lien qui se perd, mais voilà, il y a plus de temps aussi pour d'autres choses, donc ce n'est pas plus mal.
Une chaîne de télé américaine a cédé à une pétition conservatrice et a censuré un baiser de femme. Comment vous faites-vous pour faire évoluer les mentalités à travers votre série Mytho?
Ah, alors c'est très 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 important. Par exemple, donc moi, je fais partie du collectif 50-50, qui est le collectif qui voilà, essaye dans le cinéma et l'audiovisuel de réfléchir sur toutes ces questions. Puis j'ai fait partie très tôt de ce collectif, j'étais aux premières réunions. Et donc, au moment où je préparais Mytho, on préparait le casting avec le réalisateur, j'étais vraiment plongée dans toutes ces questions-là parce qu'on était déjà avec 50-50 en train de réfléchir à ça. Et alors, par exemple, bah, je me suis dit, bah, il faut mettre en action ce qu'on est en train de se dire dans les réunions. Donc j'ai fait un truc très très pragmatique, j'ai regardé le nombre de personnages et je me suis demandé est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les personnages principaux. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait un peu des femmes. Donc il y a un personnage qui était au départ un homme dans l'écriture et j'ai décidé au casting, j'ai dit au réalisateur, tiens ici en fait c'était une femme. Et on s'est dit mais ouais, parce que c'est un personnage de méchant et tout d'un coup le fait que le méchant soit une femme, ça a apporté un truc qui était fou. Donc c'est le personnage de la voisine qu'on voit pas trop au début de la saison et puis d'un coup qui prend de l'importance. Donc voilà, ça c'est très concret. Une autre chose aussi qui était très importante pour moi, c'était la question de la diversité, de la représentation, parce que moi, au sein du collectif, j'avais pris les ateliers pour réfléchir à comment en faire en sorte qu'on ait des séries qui ressemblent à la France. Et la France, elle est pas blanche, donc il faut que nous, dans notre façon de travailler, on soit représentatif de ça aussi. Donc pareil avec le réalisateur. J'ai dit, bon, on va prendre tous les rôles et on va se dire, on va être attentif pour que pour dire à la directrice de casting, pour dire à tout le monde, soyons hyper vigilants pour que ça soit, voilà, ça ressemble à la vie. Alors que la série est un peu décalée hein, dans son stylisme, mais voilà. Et je sais que j'ai lu dans des papiers ou quoi que les gens avaient été souvent avaient remarqué ou avaient été attentifs au fait que, voilà, à tous les niveaux, les premiers rôles, les seconds rôles, les figurants, c'est mélangé et donc, voilà, ça nous ressemble.
L'époque est sous le charme des sorcières et des formules magiques pour embellir la peau. Quelle femme ésotérique êtes-vous ?
J'ai un rapport à tout ce qui est ésotérique très, très divisé. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui est enchantée de croire à tout ce qui est une forme de magie et d'invisible. Et je peux même aller très, très, très loin dans la croyance. Par exemple, il y a eu une période de ma vie, pendant une dizaine de jours, où j'ai eu comme une illumination et où je voyais toutes mes vies antérieures et toutes les vies antérieures des gens tout autour de moi. Mais c'était très, très joyeux comme moment. Donc, j'ai à la fois cette propension à aller vers l'inexpliqué, parce que je crois que l'être humain a fondamentalement besoin d'aller vers là. Et puis, il y a une autre partie de moi qui laisse le champ libre à cette femme qui va vers l'invisible comme une récréation, parce qu'en même temps, je suis suffisamment construite pour ne pas me laisser m'envoler ou aller trop loin dans les délires. Donc, j'ai un rapport, pas ambigu, mais divisé. Et les deux cohabitent, au fond, assez bien.
Le Madame Figaro a dévoilé 3 produits d'entretien naturel qui nettoient sans risque, ouais, pour la santé et la planète. Ouais. Quel écolo êtes-vous ?
Moi, j'ai été élevée par une mère qui avait déjà, dès mon enfance, était très, très sensible à ces questions-là. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui vient de loin. Dans ma pratique quotidienne, je fais le tri des papiers, je fais attention à l'eau, mais en vrai, je fais pas du tout assez. Je m'en rends bien compte et je culpabilise souvent. Je voudrais faire plus et mieux.
Résister à l'injonction du toujours plus vite. Les retardataires pathologiques seraient les vrais rebelles des temps modernes.
Alors moi, j'ai un problème de maladie. C'est-à-dire que moi, c'est le contraire. Je suis maladivement à l'heure. Si j'ai 5 minutes de retard, mon cœur se met à palpiter, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. D'abord, les retardataires me fascinent. Parce que même moi, quand j'essaie d'arriver en retard, où je me dis, bon, là, si j'arrive à l'heure ou en avance, je vais avoir pas l'air d'être cool, ou peut-être que je vais attendre parce que je sais que la personne en face est tout le temps en retard, eh bien, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui me pousse au dernier moment à être à l'heure. Oui, c'est une forme de névrose. Par exemple, si je dois aller à un endroit, je connais parfaitement sur combien en métro ça va me prendre, à une fourchette de 3 minutes, si je prends la fourchette basse, la fourchette haute. C'est toute une organisation mentale un peu obsessionnelle. Pourquoi cette obsession-là, ça serait intéressant de comprendre, mais voilà. Donc, j'envie les retardataires. Peut-être qu'ils rendent le monde meilleur, en effet, mais moi, je ne fais pas partie de cela.
Ilona Smet a révélé que sa mère a toujours été très protectrice avec elle. Quelle maman êtes-vous et quelle fille êtes-vous ?
Alors, la question de la maternité, c'est une question moi qui me préoccupe beaucoup. Là, j'ai écrit un monologue théâtral qui va se jouer au Rond-Point en février, qui s'appelle La Visite, qui est sur une jeune mère de famille qui reçoit... vous savez, quand on vient d'avoir un bébé, il y a tout le monde qui vient chez vous, etc. Puis elle reçoit les gens, puis elle s'interroge beaucoup sur la maternité. Donc, je dirais que d'un point de vue... intellectuelle, ces questions-là, ce sont des questions qui traversent les choses que j'écris, la transmission, le rapport à la mère, le rapport aux enfants. C'est une pensée sans fin. La mère que je suis, j'essaye d'être la moins mauvaise possible. Je trouve que être mère de famille est une responsabilité vertigineuse. Je trouve que c'est être responsable d'être, parfois je me dis mais comment je vais m'en sortir, comment je vais réussir ça, et puis en même temps c'est vrai que ça apporte tant de compréhension du monde et de joie Et puis, le rapport à la mer, il est aussi très complexe. En ce moment, j'écris un livre dans lequel ma mère est le personnage principal avec moi. Enfin, on mène une enquête ensemble. Et donc, c'est des sillons que je creuse depuis longtemps et qui sont, on va dire que c'est un peu mon aquarium. Donc, je ne peux pas répondre comme ça. Je dirais que j'essaye de répondre à travers mes livres, tant la question est vaste.
La galère des parents qui télétravaillent avec leurs enfants à la maison. Comment gérez-vous votre quotidien de mère et d'écrivain ?
Alors moi, c'est un peu... Je vois mon travail d'écrivain vraiment comme quelque chose de presque comme un artisan. C'est-à-dire que je dépose mes enfants le matin à l'école et puis après, j'écris toute la journée jusqu'à aller chercher mes enfants à l'école. Et puis le soir, si je suis pas trop fatiguée, je retravaille un peu. C'est-à-dire que paradoxalement, alors que j'exerce un métier d'artiste, on va dire, j'ai eu besoin pour pouvoir faire ce métier, au contraire, d'être dans une forme très, très, très contrainte et très banale d'écriture tous les jours. Voilà, pour moi, c'est comme aller au bureau. Ce quotidien-là, cette répétition-là me rassure énormément. Donc voilà, j'écris à peu près 8 heures par jour entre le moment où je dépose mes enfants et le moment... Enfin oui, 6 heures et puis après encore un peu de 2 heures le soir. Donc voilà, j'ai au fond, même si c'est un peu... particulier d'écrire des livres, j'ai une vie qui ressemble à la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mères de famille.
91% des Françaises se disent inspirées par celles qui se sont lancées dans la création d'entreprises. Et vous, qui vous a donné envie d'écrire ?
Pour répondre à la question de la création d'entreprise, moi, j'ai créé une entreprise. Et j'ai adoré ça. En 2008, j'ai créé une petite maison d'édition qui existe toujours, qui s'appelle Porte Plume. On fait des livres sur mesure pour les particuliers. Par exemple, si vous avez envie d'offrir un cadeau à votre grand-mère ou à votre arrière-grand-mère, et ben, nous, on écrit ses mémoires, on va la voir, on écrit un livre et puis après, on l'édite. Et moi, qui n'étais pas du tout concrète, j'ai adoré créer une petite entreprise. J'ai adoré comprendre, me dire comment ça marche. Il y a une grande satisfaction à l'idée de construire quelque chose que vous avez fait de vos mains, entre guillemets. Donc, je comprends que ce soit un appétit pour les femmes. Et puis aussi, on a quand même ça en nous. Peut-être que c'est des instincts qui ont été, à travers les décennies, étouffés. Mais les femmes ont besoin de faire, de construire. Donc, cette statistique, elle ne m'étonne pas du tout. Moi, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire ? Je ne sais pas, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. C'est assez mystérieux. Ma sœur écrit aussi. Pourquoi deux sœurs dans une famille ? On ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est quel a été le passage à l'acte ? C'est-à-dire le moment où je me suis dit, bon, j'y vais. J'avais pas encore 30 ans. Moi, j'ai commencé à travailler assez jeune. J'ai bossé dans des entreprises culturelles, une maison d'édition. Après, je travaillais dans un théâtre. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment que la vie passait et que si je ne voulais pas passer à côté de ma vie, il fallait se donner les moyens de se dire, ben moi, mon rêve, c'est d'être écrivain. Donc, c'était un moment où j'étais très, très mal. J'étais malheureuse. Et je me suis dit, peut-être que la seule solution pour se sortir de ce malheur, c'est de t'autoriser à prendre des risques.
Madame Figaro dévoile 5 idées pour sortir le week-end. Qu'aimez-vous faire quand vous ne travaillez pas, Anne Berest ?
Alors, évidemment, passer du temps avec mes enfants, c'est la seule chose... Après ou avant le travail, je dirais après le travail, avant le travail, la mauvaise mère, c'est le temps et que je trouve le plus important, c'est celui que je passe avec elle.
Brownie, cake, forêt noire, ces délices régressifs sont au goût du jour. Quels sont vos plaisirs coupables ?
Mes plaisirs culinaires coupables ? Alors, je pique énormément les goûters de mes enfants. Donc, je leur achète des goûters qui ressemblent à mon enfance. Et puis, il arrive des jours où « Oh, bah, il n'y a pas de goûter pour ce soir !» Bah oui, maman a tout mangé sur la journée. Voilà. Un autre exemple de mère indigne.
Et quels sont les goûters qui ressemblent à ceux de votre enfance ?
Bah, les bicados, les... Comment ça s'appelle ? Les petits écoliers, les délicieux. Voilà. Qu'on mangeait à leur âge.
Virginie Viard a dévoilé sa première collection métier d'art récemment. Quel lien entretenez-vous avec la maison Chanel ?
C'est un lien très fort. Un matin, j'ouvre ma boîte aux lettres et dans cette boîte aux lettres, il y avait une lettre de Karl Lagerfeld, manuscrite avec sa grande écriture envolée, qui avait lu un livre que j'avais écrit qui s'appelle Sagan 1954. Et il m'écrivait pour me dire ce qu'il avait aimé dans ce livre, pourquoi, et avec des choses très précises, des détails. C'était assez fou de se réveiller un matin et d'avoir cette lettre. Et puis après, j'ai très vite aussi rencontré la maison, rencontré Virginie. Et alors moi qui ne venais pas du tout de ce monde-là, de la mode, je l'ai découvert avec l'enthousiasme et l'innocence d'un candide, c'est-à-dire quelqu'un qui découvre un monde qui n'est pas du tout le sien. Et je me suis dit, mais c'est la beauté de ce monde, sa poésie, son inventivité. Et petit à petit, j'ai créé, j'ai aimé les conversations que j'avais avec Karl, parfois à la fin des défilés ou lors des voyages. On aimait parler de littérature. Il avait une passion pour la princesse Palatine, moi aussi. On parlait de Zweig. C'était des conversations que... Je me souviens de chacune de ces conversations. Parce que c'était vraiment un être d'une intelligence et d'un à-propos... Et puis c'était une bibliothèque vivante. Évidemment, j'ai connu Virginie à ce moment-là, à travers ces années-là. Et puis je suis très épatée, éblouie par ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle est la façon dont à la fois elle construit une vision qui est évidemment dans un héritage, mais comment elle se met là-dedans, dans son idée à elle de la féminité, dans quelque chose aussi de très, très, très moderne. Et puis, je suis aussi très bouleversée par l'être qu'elle est, si humble, si timide, si peu attirée par au fond, parfois, le monde de lumière qu'il y a dans cet univers-là. Et elle, qui a toujours été une femme, qui se sentait bien, un peu loin des projecteurs, il y a une chose très gracieuse dans sa façon de vivre ça. Voilà, c'est une femme rare.
À 93 ans, la reine d'Angleterre a battu le record du nombre d'improbables chapeaux en sortie officielle. Quels ont été vos propres fashion faux pas ?
Je sais pas quoi dire, parce que comme je suis pas...
Des trucs que vous regrettez ?
Je sais pas, je regrette rien. Non, mais j'ai sans doute été un certain nombre de fois très mal habillée dans ma vie, mais en même temps, c'est des choses que d'abord que je regarderai avec tendresse dans 30 ans, et puis on sait pas, peut-être que ce qu'on considère comme les fashion faux pas d'aujourd'hui seront l'avant-garde de demain, donc j'en sais rien.
Salma Hayek et Angelina Jolie, c'était le selfie qu'on n'attendait pas sur Instagram. Quelle est la rencontre avec une star qui vous a le plus marqué ?
Alors, je dirais deux choses. D'abord, j'ai 19 ans. Je vis sur le campus de Minneapolis parce que mon père est enseignant-chercheur là-bas. Et donc, je passe l'été sur le campus avec ma famille. Et puis, un soir, j'ai un copain qui m'emmène. Et on va chez Prince. Et on passe une nuit blanche chez Prince. On fait un... J'assiste à une sorte de bœuf, un concert improvisé qui a duré de 11h du soir à 4-5h du matin. Et ça, c'était un moment incroyable. Une des grandes rencontres, j'ai envie de parler de Patrick Modiano. J'ai fait l'adaptation il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, d'un pédigré que j'ai adapté et mis en scène pour Edouard Baird. Et puis, on l'a joué au Théâtre de l'Atelier. Et en fait, Pédigré de Modiano se termine au Théâtre de l'Atelier. C'est les dernières phrases, les dernières scènes. La dernière scène se passe là-bas. Et on était là avec lui. Et puis, on était dans les coulisses. Il était très, très heureux et d'être là, d'être avec nous. Et je crois que c'est, voilà, ça fait partie des moments rares aussi, des choses auxquelles je repense et où je me dis, tiens, je suis contente d'avoir vécu ça.
Et enfin, on a demandé à une dizaine de femmes de nous donner leurs bonnes résolutions pour 2020. Quelles seraient les vôtres ?
Alors moi, ma résolution pour 2020, c'est de ne pas avoir de résolution.
Merci beaucoup, Anne Verest.
Merci, Marion.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.